Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous sommes de retour le week-end des experts l'automobile. Jean-Luc, et d'ici 10h, nous nous intéresserons dans quelques instants au marché automobile de l'année 2020 qui, évidemment, a été un petit peu secoué hein, par cette épidémie. On va en parler avec, entre autres, François Roudier, qui est avec nous en studio. Tout à l'heure, notre rendez-vous sur le vif. Alcool, drogue au volant, fête, confinement.
On parle de vous,
à une étude sur les usages et les comportements des 18-24 ans en France.
Ouais, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont envie de faire des choses pas bien. Parce qu'en gros, c'est ça, quoi.
Peut-on refuser une immatriculation ridicule? Voilà, par exemple, je sais pas, moi, j'ai JLM à la fin. Jean-Luc Moreau, c'est que c'est ridicule.
Vous ne pouvez pas avoir une JLM à la fin.
Non, c'est pas possible.
Non.
Pourquoi? Parce qu'il y a trois lettres.
Mais non, parce que c'est deux lettres, ensuite c'est trois chiffres, et ensuite c'est deux lettres.
Non, mais c'était pour la blague. Vous n'avez pas compris.
Oui, j'ai bien compris.
Ah, quand même.
J'ai bien compris.
Mais je me suis dit, ça y est, il s'est endormi. Donc on verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'on peut éviter ce type de choses?
Celui qui a caca 1, 2, 3 PQ, par exemple, vous voyez. Pas terrible.
Au moins,
ça vous fait rire.
Avec un, deux, trois PQ, il est paré. Hein, il n'aura pas de souci. Surtout que pendant le confinement, je vous rappelle que c'était quand même une denrée rare.
Il y a forcément quelqu'un qui l'a eu, cette immatriculation.
Mais forcément. Alors, on en parlera tout à l'heure. Le 32-16 pour vos questions. L'appli RMC Direct Studio aussi pour nous joindre. Et on accueille Bernard tout de suite. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Allô.
Oui, on vous écoute, oui. Bernard. Bienvenue.
Oui, bonjour Bernard.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Tout d'abord, merci de prendre ma question. Et puis, je voudrais simplement dire qu'à partir du 3 janvier, je n'écouterai plus RMC. Voilà.
Ouh là là, ça c'est violent quand même. Attendez, il y a d'autres émissions bien quand même à RMC,
non,
Bernard.
Mais la vôtre était très enrichissante, pleine d'humour, donc je regrette qu'elle s'arrête. Voilà.
Écoutez, donc, voilà, c'est comme ça. Mais laissez la chance à ceux qui arrivent après. Et après, vous jugerez. Mais peut-être que ça ne sera pas si mal que ça, on verra bien.
D'accord. Je vais devoir vous envoyer un chèque parce que j'ai plusieurs questions à vous poser.
Oh là,
c'est systématiquement payant, donc.
Pour le fisc, ça intéresserait Jean-Luc après la fin de l'année, en 2021. Ça serait
allez,
bien.
D'accord, pas de problème. Oui, je voulais demander à Jean-Luc, là, parce que au niveau du bioéthanol, voulais savoir, il y a certains véhicules, Volvo, japonais et autres, qui peuvent rouler au 100% bioéthanol, sans reprogrammation, sans boîtier.
Alors, si elles sont homologuées flex fuel, enfin si elles sont homologuées pour rouler au 85, oui. Maintenant, après, on en parle souvent d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des moteurs Renault qui acceptent du E85. Ils sont pas homologués pour. Mais si on met du E85 dedans, c'est pas très grave. Le moteur risque pas de tomber en panne. Il faut faire le distinguo entre les deux. Après, le risque avec ces voitures qui ne sont pas homologués pour rouler au superéthanol E85, c'est que si vous avez un vrai problème et que vous demandez au constructeur de prendre en charge une réparation, il vous dira, je suis désolé, vous avez utilisé un carburant qui n'est pas homologué pour la voiture.
D'accord.
Donc, la panne, c'est pour vos pieds.
Mais c'était surtout au niveau de l'assurance, parce que je sais que vous avez l'habitude.
Ah oui,
de
non,
dire
mais au niveau de l'assurance, le fait que votre assureur, que vous mettiez du super sans-plomb 95 ou du 95 E10 ou du super éthanol 85, lui, il s'en fiche. Si vous tombez en panne, c'est pas votre assureur qui va vous rembourser.
Et puis. Non, mais c'était. Je vous interromps, excusez-moi. C'était simplement le fait de rouler au 100% bioéthanol. Au niveau de la carte grise, on n'est plus dans la même. Ça revient au même que de refaire une reprogrammation, quoi.
Non. Si vous faites une reprogrammation, vous modifiez les caractéristiques du véhicule. Si vous changez le carburant dans le réservoir, ça n'engage que vous. C'est pas interdit de mettre du E85 dans une voiture qui a pas été prévue pour rouler au E85. Vous risquez pas, en cas d'accident, que l'assureur se décharge ne vous rembourse pas. Si vous avez un accident comme ça, c'est pas du tout la même chose.
D'accord. Donc, mais parce que là, dans au niveau du bioéthanol, je sais que vous êtes plus favorable au boîtier, mais le boîtier, pour moi, ça trompe les sondes et c'est que c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est quand même de jouer sur le calculateur plutôt que le boîtier
La meilleure solution, c'est de prévoir le véhicule dès le départ pour qu'il soit à l'éthanol, c'est-à-dire d'avoir des durites, un circuit d'alimentation, d'avoir tout, une cartographie également qui soit étendue pour pouvoir rouler au super éthanol, d'avoir une sonde lambda, ce qu'on appelle large bande. Voilà, un véhicule prévu dès le départ pour rouler au super éthanol en tirera meilleure partie qu'un véhicule adapté, que ce soit avec une cartographie ou avec un boîtier. Maintenant, la différence entre la cartographie et le boîtier, c'est que le boîtier a subi une homologation, donc le véhicule, oui, il a le droit de circuler. La cartographie qui est faite sur chaque véhicule n'a pas été validée par les services de l'État, donc c'est illégal de rouler avec une cartographie modifiée. Maintenant, on ne parle pas d'efficacité, moi je vous parle de légalité. Vous n'avez pas le droit, d'accord, de rouler avec un moteur reprogrammé, point.
D'accord. D'accord.
En plus, vous perdez le bénéfice de toutes les garanties. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, la garantie commerciale. Bon, ça, c'est que pour 2 ans, voire chez certains constructeurs jusqu'à 7 ans. Mais ce qu'on appelle la garantie des vis cachés, qui court jusqu'à 5 ans, si votre véhicule tombe en panne avant et que vous avez fait une reprogrammation, alors que ce soit pour rouler à l'éthanol ou que ce soit pour avoir plus de puissance ou quoi que ce soit. Vous savez, il y a plein d'apprentis sorciers qui vous vendent des reprogrammations vous disant super, vous allez gagner 20 chevaux et vous allez consommer moins. Alors, souvent, c'est vrai sur ces deux points-là. Ce qu'ils oublient, c'est que toute magie a un prix et que vous allez polluer beaucoup plus. Et ça, eux, ils s'en foutent. Ils vont tenir leurs promesses. Ça veut dire que vous allez effectivement gagner en puissance, vous allez gagner également en consommation. On se dit, ouais, chouette, elle marche mieux et elle consomme moins. Mais d'un autre côté, elle va polluer plus. Et en plus, alors là, vous tapez dans la fiabilité du moteur. Il n'est pas exclu que vous ayez une panne assez rapidement. Bon voilà, oui, sur ces deux aspects-là, le jour où vous êtes en panne, vous allez les voir en disant attendez, mon moteur il est en panne, tant pis pour vous. Oui. Hein. Ils vous offrent aucune garantie non plus. Hein.
Oui, mais on peut bien faire une programmation sans passer par un stage 1 et avoir une reprogrammation que pour rouler au bioéthanol sans changer la puissance. Moi j'ai mon gendre qui l'a fait sur une Jaguar, une S-Type R et sur une AMG C63. Sans augmenter la puissance, uniquement pour passer au bioéthanol. Et ça marche.
Mais vous allez fatalement augmenter, vous allez fatalement augmenter la puissance. Si vous faites une reprogrammation bien faite, vous allez tirer parti du taux d'octane plus important de l'éthanol et fatalement, ça va augmenter la puissance. Voilà, mais c'est pas ça. C'est que surtout, si on se rend compte que vous avez une reprogrammation, là, pour le coup, votre assureur va dire attention, vous n'êtes pas assuré pour ça.
C'est pas bon, ça.
Oui. D'accord. Et puis donc mon autre question, c'était sur la fameuse boîte Aisin, hein, parce que j'ai ma fille qui a une 308 SW, et le constructeur Aisin, il préconise pas de vidange. Donc j'ai pu trouver un concessionnaire Peugeot qui a pu faire une vidange, mais il a pu enlever que 3 litres sur les 10 ou 12. Et là, je sais que je l'ai vu à Wheeler Dealer, et puis vous l'avez annoncé la semaine dernière, je crois. Il existe un matériel comme la clim qui permet de vidanger.
Exactement, ça fait automatiquement.
J'ai trouvé personne.
Je crois que Neuroto a une machine Motul qui fait ça toute seule. Vous allez dans un centre Neuroto qui est équipé, et ils sont équipés, et puis ça vous vide l'huile de la boîte, toute l'huile de la boîte.
Mm-hmm. Hein, parce qu'il faut l'aspirer, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et puis ça vous re-remplit avec la même quantité d'huile, en respectant, parce qu'il faut à la fois respecter très précisément la quantité d'huile, et il y a même une température à laquelle il faut faire la vidange. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu délicat la vidange des boîtes automatiques, mais on pourra, on en a déjà parlé abondamment, je pense que ça sera un vrai sujet pour les années à venir. Les boîtes auto, ça se vidange, tous les dispositifs avec de l'huile dedans, à un moment ou à un autre, ça se vidange, le graissage à vie, ça n'existe pas.
Parfait, merci beaucoup Bernard pour votre appel au 32-16, on retrouvera quelques-unes de vos questions d'ici 10h. Mais Jean-Luc, dans l'immédiat, on va évoquer ce flashback sur le marché automobile de 2020. On le sait, ce marché a été secoué par cette pandémie. Beaucoup, beaucoup moins de véhicules se sont vendus en 2020. Et on va en parler avec nos invités, notamment François Roudier, qui est le directeur de la communication du CCFA, qui est avec nous. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour Monsieur François, merci d'être avec nous en studio.
Vous représentez les constructeurs automobiles, c'est ça ?
Oui, voilà, les constructeurs automobiles français et puis je dirais les autres aussi, parce que c'est nous qui sortons les chiffres du marché global, avec une bonne entente avec les étrangers.
Bon, alors première
cette
question.
Cette année, ouais, grosse mine.
Ouais, c'est ouais, quoi misère. Le score?
On revient à 1975, c'est ça?
Et au niveau exactement, des ventes cette voilà, année. On peut passer. J'ai encore rêvé d'elle parce que c'était cette époque-là. Vous vous rendez compte un petit peu, c'est absolument délirant.
Et j'adorais cette chanson.
Voilà, donc ça vous met un petit peu dans l'ambiance. On revient à des chiffres qu'on n'a pas connus depuis les années 80. Hein. Les pires chiffres du marché français étaient autour de 1,7 million et touchaient le 1,7 million. Là, hier, il nous reste encore 8 jours, mais hier, on était à 1 574 000 voitures vendues.
Ouais, on va être
donc,
1
million on va toucher
6,
les
ouais.
600, on va remonter un petit peu, mais bon, c'est quand même terrible. Et en fait, on a perdu un quart du marché. Hein, ce qu'il faut comprendre, on a perdu un quart du marché. C'est tout le marché qui a été perdu pendant le premier confinement. On n'a pas réussi à remonter ce trou absolument considérable. Souvenez-vous, on avait des moins 80% par rapport à certains mois.
Alors, le deuxième confinement a été moins dur que le premier.
Ça a été moins dur. Ça a été moins dur puisque les immatriculations sont très souvent des livraisons. Hein, le contrat a été négocié avant et donc les clients ont pu reprendre leur livraison, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Le click and collect, quand on dépense 30 000 euros pour une voiture, en cliquant sur Internet, voilà. Donc ça n'a pas vraiment bien marché. Et puis souvenez-vous que cette année, c'était notre grosse offensive sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables, des véhicules que les clients ne connaissent pas, donc ils doivent essayer. Donc on ne pouvait pas faire essayer ces véhicules, donc on ne pouvait pas les vendre.
Alors, vous avez dit hybride, rechargeable et électrique, c'est quand même la bonne nouvelle, on va dire, dans toutes ces mauvaises nouvelles, c'est la bonne nouvelle de l'année, c'est que là, le marché décolle enfin.
Écoutez, oui, c'est même au-delà de certains espoirs sur certains modèles. Hein, je vous cache pas qu'il y a eu un vrai engouement. Alors à la fois entreprises, parce qu'on le savait, les entreprises avaient besoin pour leur quota de CO2.
C'est fiscal. Faut le dire.
Eux avaient besoin, donc ça, on savait que ça allait fonctionner. Mais on a vu aussi un vrai engouement de la part de fans qui sont venus essayer ces voitures. Il y a eu une bonne presse sur les véhicules
qui
sont sortis.
Alors faut le dire, François, c'est quand même. Parce que là, on a parlé fiscal, on se dit c'est environnement, mais c'est super sympa à conduire, c'est la première qualité. Les voitures électriques, ça reste sympa à conduire, les hybrides rechargeables, c'est vrai que c'est mieux qu'un véhicule thermique classique, faut quand même dire ça.
Voilà, c'est très sympathique, c'est très agréable. Le travail qui a été fait sur l'acoustique de l'aérodynamique fait que maintenant, on est dans une voiture normale et encore même plus silencieuse qu'une thermique. Avant, on entendait des bruits d'air qui étaient un petit peu désagréables sur les premiers modèles. Vous avez maintenant un choix considérable, hein, c'était ce qui manquait. Hein. On avait pendant très longtemps, on avait Zoé et puis la Outlander PHEV.
Vous êtes bien placé pour en parler. Pour une fois, les constructeurs français sont arrivés sur un marché qui est un marché qui semble porteur pour l'avenir. Ils ont été absents longtemps. Renault faisait pas d'hybride, mais PSA non plus d'ailleurs. Ça y est, ils sont arrivés les uns et les autres avec à la fois des hybrides et des hybrides rechargeables. Les modèles électriques, Renault avait un petit peu d'avance, mais on a eu le sentiment qu'ils sont un peu endormis, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a 4 modèles électriques qui ont été présentés, puis depuis quelques années, plus rien, à part le renouvellement de la Zoé. La Peugeot arrive déjà avec deux modèles électriques, avec même un troisième chez Citroën, et avec, j'imagine, encore dans les cartons, plein de choses qui vont arriver pour l'année prochaine.
Oui, en fait, quand on voit ce qui se passe chez les constructeurs, nous et même les étrangers, vous avez maintenant cette application industrielle de l'électrique et d'hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'on a des plateformes qui sont interchangeables, des volumes qui nécessitent d'ailleurs de construire des usines de batterie. Hein. Regardez la construction d'usines de batterie en Europe.
C'est la question que j'allais vous poser.
Voilà,
parce qu'on a plein de il y a plein d'auditeurs qui m'ont dit ouais, c'est bien de parler électrique, mais est-ce que les constructeurs français vont pas être victimes justement de cette électrification du marché, puisque les batteries aujourd'hui viennent majoritairement d'Asie du Sud-Est? Est-ce que justement ce passage électrique, c'est pas la mort des constructeurs français? Alors moi, j'ai un élément de réponse, que j'ai vu des trucs secrets. Normalement, il faudrait pas que j'en parle, mais bon, tant pis, je vous en parlerai. Mais on a quand même en France un des leaders dans les batteries high-tech. On a Total qui a racheté cette société qui s'appelle Saft. Et Total, on sait que c'est une petite entreprise,
oui,
une petite entreprise familiale qui travaille dans sa cuisine, mais qui va sans doute arriver à une start-up qui va arriver à faire des choses. On a en fait les compétences pour arriver à devenir un des leaders de la batterie. Donc j'imagine que ce soit PSA ou Renault, ils ont compris où était leur intérêt. Et maintenant, il n'y a plus de questions, parce que pendant un moment, c'était est-ce que l'électrique va décoller? Donc est-ce qu'on investit? Aujourd'hui, on sait que oui, il faut y aller.
C'est toujours le jeu en automobile. Hein. Soit on prend une bonne direction, soit on se lance à fond dans un programme qui a un plantage total. Et on sait qu'il y a quand même quelques entreprises qui n'ont pas survécu à ce genre d'opération. Donc là, c'était assez compliqué. L'essentiel des batteries de technologie lithium-ion se sont imposées, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Souvenez-vous, on hésitait entre plusieurs types de techno. Bon, ces lithium-ion maintenant, elles ont évolué considérablement. Et puis, on va arriver vers de nouvelles techno. Et là-dessus, oui, en Europe, et surtout les ingénieurs français ont des capacités énormes. Je pense au CEA qui a des idées remarquables. Et puis il y a pas mal de start-up qui arrivent.
Oui, on a parlé de Nahua Technologies qui proposait.
Voilà, Nahua Technologies. Donc on sait que maintenant, pour nous constructeurs, c'est fondamental la batterie. Bah, on va pas le laisser partir ailleurs.
Bon, j'ai vu un Peugeot 3008, mais vous écoutez pas. Hein. J'ai vu un Peugeot 3008 avec des batteries qu'on pourrait, qui est moitié moins épaisse que celle actuellement, qu'on peut intégrer dans le sous-bassement. Donc,
d'accord. Avec la techno Nahua ou autre chose.
Avec une techno, mystère et boule de gomme.
Avec une techno.
Je me bouche les oreilles, je n'entends rien.
On revient
avec
dans un instant.
Une techno nouvelle qui sera une vraie rupture.
Bon, 9h23 sur RMC, on revient dans un instant pour évoquer encore ce marché moribond de l'automobile de 2020. Mais bon, est-ce qu'on.
Il n'est pas que moribond, hein, pour l'occasion, il est en pleine forme. Hein.
Non, mais le chiffre n'est pas.
Ouais,
pas
bon, non, on est d'accord. 1,6 million au lieu de 2,2 millions.
Voilà, après, évidemment, il y a des subtilités dans tout ça, mais c'est pas une
imaginez
bonne année en matière de.
Votre salaire passe de 2,2 millions à 1,6 million, François.
C'est dur, c'est très très dur. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon troisième hélicoptère. On revient dans un instant sur RMC. Après la météo, et Vincent Encart, directeur général de Tous Foot 24, viendra enrichir le débat avec François Roudier. A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre week-end des experts auto, 9h30. Jean-Luc, on évoque ce matin le marché automobile de 2020 qui, bien sûr, a été impacté par cette épidémie de Covid.
Hein. Oui, qui nous ramène en 1975.
Bon, on a les chiffres de 75
ouais,
cette année.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, à la limite, revenir en 1975, quelque part, ça serait pas mal pour beaucoup d'entre nous. Enfin, moi, j'étais pas né, mais bon, j'imagine que pour vous, ça vous rajeunirait quand même pas mal. Et avec, bon, François... des constructeurs français qui s'en sortent un peu moins mal, on va dire, que les autres.
Oui, je pense que les Français vont un peu surperformer à 1% à peu près. Hein. Enfin, on devrait être peut-être plutôt dans les... allez, je dirais, on va faire moins 25%, les Français seront à moins 26, moins 24, moins 23.
Avec des disparités, avec Peugeot qui s'en tire un petit peu mieux,
avec des disparités, ce qui est assez significatif, c'est que dans un marché en crise, on voit très très bien la réussite de certains modèles, parce que ça ressort beaucoup plus. Hein, et vous avez actuellement, d'ailleurs, ce qui est un peu un problème pour certains clients, des modèles qui sont durs à livrer parce que tout le monde les demande, et puis d'autres qui n'ont pas bien fonctionné. Or là, on voit que les plans produits chez PSA et chez Renault ont bien fonctionné. Alors chez Renault, ça arrive un petit peu en retard par rapport au début de l'année où PSA était déjà prêt. Mais on voit que les lancements des nouvelles Mégane, par exemple, accrochent très très bien. Donc là, c'est très positif. On voit par exemple que Volkswagen, avec son ID3, a eu un peu de retard. Ben, ils vont le payer cher parce qu'on voit que maintenant, ils sont en retard là-dessus. Donc c'est vraiment extrêmement sensible, la réussite d'un modèle et sa sortie sur le marché.
D'accord. Alors, si le neuf marche pas extrêmement bien, en revanche,
l'occasion,
les gens sont jetés sur l'occasion. On a avec nous Vincent Encart, qui s'occupe de Autoscoot 24, qui est le leader européen, c'est bien ça, Vincent, des annonces sur Internet, c'est ça ?
Oui, c'est exact. On a donc près de 2 millions de voitures en vente en permanence sur le site.
D'accord. Alors, globalement, le marché européen et français, en termes de voitures d'occasion, il se situe comment par rapport au neuf ?
Et disons que c'est un marché qui, finalement, s'est très bien comporté, vu les aléas du marché et des confinements, puisque actuellement on est à peu près à moins 5% de pertes par rapport à 2019, ce qui est finalement très peu par rapport, effectivement, au marché du neuf. Et c'est une tendance d'ailleurs qu'on voit dans la plupart des pays européens, peut-être l'exception de l'Italie qui a souffert un peu plus, puisque leur confinement a duré plus longtemps, je dirais, au printemps. Et c'est un marché qui est en baisse de plus de 16%, alors que la plupart des pays européens sont à moins 5%. La Hollande est en même positive par rapport à 2019.
Ça représente combien de véhicules en France, le marché de l'occasion, par rapport au marché du neuf ? On a dit 1,6 million là, pour le neuf cette année. L'occasion, c'est combien ?
Disons qu'il y a toujours un facteur entre le neuf et l'occasion. Donc en France, le facteur, c'est plus ou moins entre 2,5 et 2,7 selon les années. Cette année-ci, on est à un facteur qui est de de 3.4. Donc
ah oui.
Ça veut dire que on a clairement un marché de l'occasion qui est beaucoup plus florissant, je dirais, que le marché du neuf. Le marché du neuf qui, évidemment, a souffert, je dirais, du manque de livraison en début d'année.
C'est plus de 5 millions de véhicules d'occasion qui vont être vendus cette année.
Plus de 5 millions. L'année passée, on avait déjà un score l'année passée avec plus de 5 700 000 véhicules immatriculés en occasion. On sera cette année-ci autour de 5,5 millions. Donc, ça veut dire que on n'aura finalement pas perdu tellement par rapport à 2019, qui était déjà une année record.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les gens ont acheté en occasion. Mmh. Est-ce qu'ils achètent des occasions récentes? Est-ce qu'ils achètent des voitures plus anciennes? Est-ce qu'ils achètent de l'essence? Est-ce qu'ils achètent du diesel? C'est quoi aujourd'hui la photographie de la voiture d'occasion?
Alors, c'est un marché qui a tendance plutôt à se polariser. C'est-à-dire que le fait qu'en 2020, il y a eu une difficulté, je dirais, à acheter des véhicules neufs, beaucoup de consommateurs se sont tournés vers des véhicules plus jeunes. Donc, c'était un segment, le segment des très jeunes occasions, un an et moins d'un an. C'est un segment qui a beaucoup progressé ces dernières années, mais qui était un petit peu freiné cette année-ci par le
manque de véhicules neufs, oui. On est
exactement,
d'accord.
Exactement, par le manque d'offres, puisque je dirais que toute la filière a été un petit peu enrayée. Donc ça veut dire que c'est un segment qui avait plutôt tendance à diminuer cette année-ci, mais la tendance à long terme est quand même, je dirais, de supporter ce type de segment-là. Le segment qui finalement souffre le plus dans le marché français, c'est le segment des 6 à 10 ans. C'est-à-dire c'est un segment qui finalement trouve plus sa place. Je dirais les consommateurs aiment bien acheter un véhicule moderne qui consomme peu, éventuellement hybride s'il peut le trouver, ou même électrique. Mais par contre, le véhicule entre 6 et 10 ans, je dirais qu'il n'a plus beaucoup d'attrait. Donc, c'est pas le segment qui progresse le plus.
Ouais, soit on achète quelque chose de plus récent, plus moderne, soit on achète à très petit prix un véhicule plus ancien, c'est ça?
Exactement. Donc, le segment des véhicules plus anciens, qui est un segment typiquement qui perdait du terrain ces dernières années, on a vu l'évolution au cours des différentes années que c'était un segment qui n'était plus tellement plébiscité, est un segment en fait qui a repris des couleurs en 2020.
D'accord,
avec
parce que
les transactions ouais, entre particuliers.
Parce que crise économique qui est liée évidemment à la crise sanitaire, donc les gens ont peut-être moins d'argent à mettre dans leur véhicule et c'est pour ça qu'ils achètent des occasions plus anciennes. Sinon, Vincent, la part entre diesel et essence au niveau de l'occasion, c'est quoi aujourd'hui?
Alors la part, disons, dans la part du diesel actuellement est autour de 59%.
Ah, toujours.
Donc, ça reste ouais, quand même le carburant par excellence du véhicule d'occasion. Évidemment,
parce qu'il y avait beaucoup plus d'offres. Hein. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'offres en occasion diesel, c'est pour ça.
Oui, c'est ça. Donc, et de nouveau, il faut regarder ce chiffre à la lecture de l'âge du véhicule. C'est-à-dire que si on regarde des véhicules récents, on va évidemment trouver beaucoup plus de véhicules essence ou hybrides, alors que dans les segments les plus anciens, on va plutôt retrouver des diesels qui sont, je dirais, encore abondants dans ce marché-là.
Oui, c'est normal, puisqu'on est en... Le pic, François, diesel, c'était quoi?
73%
en quoi? En 2012
hein. 2013, je crois.
2013, voilà. Donc, évidemment,
on se trouve 8-10 ans après, et donc tous ces véhicules diesel sont maintenant disponibles sur le marché, sur les véhicules qui sont finalement relativement économiques. Et ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on a faites sur Autoscoop 24, c'est que les consommateurs, en général, sont plutôt... à la recherche de véhicules parce qu'ils ne veulent pas spécialement utiliser les transports en commun. Mmh. Et donc, il y a un renouveau, je dirais, au niveau achat automobile qui est lié aussi à la pandémie.
Très bien. Ben, merci beaucoup,
merci,
Vincent,
merci pour ces
précisions.
Oui.
Merci. Et puis, merci aussi à François Roudier d'être venu dans ce studio ce dimanche, directeur de la communication du CCFA. Jean-Luc Laurent est avec nous au 32-16. Bonjour, Laurent.
Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Bienvenue, Laurent.
Ben merci, et je suis vraiment désolé pour vous, pour l'arrêt de l'émission. Oh. Et comme vous l'aviez fort justement indiqué en début d'émission, il faudrait que Dacia écoute effectivement les clients pour la boîte automatique. De temps en temps, il faudrait que...
On va dire, François Roudier s'en va, là, on va lui dire, François, il faut passer le message hein, chez Renault, Dacia, avec les nouvelles Sandero en essence, avec la boîte robotisée double embrayage.
Hein. Je suis frappé d'une surdité soudaine.
Oui, ouais, il faut absolument. Ouais, ouais.
Ouais, il faudrait que BFM et RMC écoutent aussi les auditeurs pour effectivement maintenir ce type d'émission car l'automobile est très très importante pour les Français, et on supprime une émission qui parle d'automobile, et je pense que c'est la seule émission qui parle d'automobile aussi bien sur le paysage radiovisuel.
Bon ben merci Laurent, ben voilà, merci tonton
dit,
Laurent.
C'est dit Laurent. Et quelle était votre question ?
Alors, je souhaite changer de véhicule. Je suis, j'ai toujours été amoureux des BMW et des 6 cylindres BMW. Oh
bah, vous savez quoi, hein, moi j'ai toujours été amoureux des Miss France, donc c'est pas difficile. Il y a des trucs pas difficiles comme ça, enfin.
C'est ça. Et donc, j'ai toujours eu des 6 cylindres diesel BMW avec la très bonne boîte ZF BMW.
Ouais.
Et donc, en fait, ma question était, je souhaite changer ma voiture. J'hésite entre en fait deux véhicules, mais finalement un troisième véhicule parce que les conditions tarifaires proposées sont très très bonnes, à savoir donc une BMW 330e en jeune occasion de 2019,
d'accord,
une BMW 330d 265 chevaux finalement aussi en très jeune occasion, et le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais c'est un véhicule qui m'a toujours fait rêver, une Audi TT. C'est un choix complètement décalé.
J'allais vous dire.
C'est ça, mais une Audi TT 197 en finition S-Line avec des très belles jantes 19 mais et les sièges, ouais. Des sièges qui vont bien.
Et vous faites combien de kilomètres par an? Parce que la vraie question, alors, c'est ça.
Là, je fais grosso modo entre 30 et 35 000. Bon, alors effectivement.
Vous roulez beaucoup, oui. Et puis quel type de trajet?
Alors, je fais à peu près 3 mois de l'année, 3 à 4 mois de l'année, à peu près de l'autoroute et puis des grandes routes. Et puis le reste du temps. Périurbain, voilà, je fais de la ville, mais...
Ouais. Vous roulez beaucoup, vous faites quand même des longs trajets sur autoroute, donc le diesel, là, il a du sens dans votre cas.
Ouais, mais si vous achetez pas un diesel en LOA...
si vous achetez pas en LOA...
Ah oui, non, mais cela dit,
il va perdre un peu. Mais bon, peut-être que vous avez en même temps, si vous l'achetez en occasion récente, vous avez peut-être une bonne opportunité. Combien vous la touchez, la 330D, là?
Moi, je ne raisonne pas en prix d'achat, je raisonne en soulte par rapport au véhicule que le concessionnaire me reprend. Et sur ces trois véhicules, j'ai exactement la même soulte à
regarder. D'accord.
Donc, en fait, le choix du cœur, ça serait un TT 197, c'est un superbe véhicule. Et la raison me ferait dire un diesel et pourquoi pas un hybride. Alors, du coup, je suis un peu en expectative par rapport à mes choix.
Alors, ce que je vais dire, ça va en heurter certains, si on fait de l'autoroute et comme vous êtes habitué aux 6 cylindres diesel BMW, c'est vrai que la 330D avec, vous avez dit 265 chevaux, mais surtout le couple, quoi, 580 Nm à 1750 tours minute, le truc c'est un char d'assaut quoi, quand on accélère. Donc là, c'est largement pour les grands trajets le véhicule le plus adapté. Après... la 330e est pas désagréable, mais ça reste un 4 cylindres, donc vous allez perdre le champ, même si c'était un diesel. C'est vrai que je sais pas comment se sont débrouillés les ingénieurs BMW, mais ils ont réussi à faire sonner des 6 cylindres diesel comme des moteurs essence. Je trouve ça absolument génial. Donc là, vous allez perdre un petit peu en agrément. Vous y retrouverez quand vous ferez votre saison périurbaine, avec des consos qui vont être beaucoup plus intéressante, et surtout avec la possibilité de rouler en 100% électrique, hein, puisqu'on peut faire environ 40 km en électrique avec cette voiture. Par contre, quand vous ferez de l'autoroute, là, vous allez regretter le diesel. Il faudrait presque arriver à changer de voiture entre les deux. Hein. Maintenant, la TT, vous m'avez dit, c'est le choix passion. Oui, c'est ce que je prendrais moi, mais voilà, ce serait uniquement passion. Si vous en avez besoin quand même pour travailler, mon choix quand même, ça resterait le diesel.
Jean-Luc, merci Laurent pour votre appel. On va revenir dans un instant. On va parler de cette étude sur l'alcool et drogue au volant et surtout les comportements des 18-24 ans en France dans un instant. Et puis aussi, notre question pas si bête. À tout de suite, c'était RMC.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour est la fin de ce week-end des experts, 10h moins le quart. Notre rendez-vous sur le vif dans un instant. Mais tout de suite, notre question pas si bête de ce dimanche.
Je vous dis, con vous avez l'air. C'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Et Jean-Luc, peut-on refuser une immatriculation ridicule?
Eh oui, alors c'est quoi une immatriculation ridicule? Bon,
évidemment,
il y en a plein.
Imagine ce que ça
c'est
peut être.
C'est plus caca boudin les ridicules. Hein. D'ailleurs, caca, tiens, WC, PQ. Voilà, si vous avez caca 1, 2, 3, WC, Ça, c'est vrai que ça va faire rigoler un peu tout le monde quand vous sortirez avec votre voiture.
Bon, en général, c'est des sourires qui durent pas très longtemps. C'est quand la personne est derrière vous.
Oui. Oui,
mais après, ils oublient.
Oui, mais si vous avez pété sur, comme immatriculation, ceux qui sont derrière vont dire bon,
il faut une électrique.
Sa voiture, elle pue.
Il faut obligatoirement une électrique.
Ouais. Alors, avant...
est-ce qu'on peut aller taper à la porte de la préfecture en disant attendez, moi, j'accepte pas cette plaque.
Avant le 15 avril 2009, c'est-à-dire quand le SIV est rentré a été adopté, on pouvait aller en préfecture et on pouvait faire modifier des choses qui étaient un petit peu bizarres. Aujourd'hui, malheureusement, tout est entièrement automatisé, donc vous avez une immatriculation en plus qui va rester à vie sur le véhicule. Alors non seulement vous pouvez vous dire oh là là, j'ai chopé un truc pas terrible, mais celui à qui vous allez revendre la voiture, il aura la même immatriculation, il va la garder. En ce moment, juste à titre comme ça d'information, on en est à FV. FV avec un numéro derrière, bon, qui bouge chaque minute pratiquement.
Oui, oui.
Et je pense qu'on est à X quelque chose, on doit être à H ou un petit peu plus loin. Donc c'est des numéros là, il y a pas trop à redouter. C'est quand on va arriver dans les P qu'il faudra commencer
à être vigilant.
Voilà, faudra être vigilant, faudra faire gaffe. Alors, il y a des sites quand même qui vous proposent de suivre en temps réel pratiquement où on en est de l'immatriculation.
Ah oui. Tiens,
et donc
c'est drôle,
et même ils ont un algorithme qui vous permet de en entrant une date de savoir
à peu près
cette date où on va tomber. Donc ça vous évite de trop mal tomber quand même. Alors il y a quand même des immatriculations qu'on peut pas avoir. On peut pas avoir SS. C'est la seule exception d'ailleurs.
Donc ils annulent tous les SS.
Le SS n'existe pas. D'accord. Dans les immatriculations. Ouais. Et puis il y a des lettres qui ont été supprimées. Il y a le I, le O et le U. Ça, c'est pour éviter la confusion avec le 1, avec le 0. Et le U est un peu proche du V. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas le mettre. Mais autrement, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de peau, tomber sur une immatriculation absolument abominable.
Monstrueuse,
et vous allez la garder
sûr.
Tout le temps. Donc, je vous conseille tous ces sites qui vous proposent, avec anticipation, de savoir à quel numéro on va être.
Jean-Luc, on termine ce rendez-vous auto avec notre rendez-vous sur le vif et on accueille Pierre Nègre qui est responsable prévention à la MAF.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous vos auditeurs également.
Bon, vous avez dévoilé cette semaine les résultats d'une double enquête auprès des jeunes sur leurs usages et comportements sur la route. C'est pas, je l'ai lu, franchement, ça fait un peu froid dans le dos quand même, avec des enseignements qui sont pas très brillants déjà. Il y a pratiquement un jeune conducteur sur deux qui a déjà pris le volant sous influence de la drogue ou de l'alcool. C'est énorme, ça. Déjà, absolument. L'enquête, vous l'avez fait auprès de qui, déjà, cette enquête ?
Alors, cette enquête, en fait, on a fait deux sondages à suivre, entre le 25 novembre et le 6 décembre, auprès de 4567 jeunes, pour être précis, pour le premier lot, et 3442 pour le deuxième. Ça représentait deux échantillons et qu'on a ramené à 1000 répondants. Donc selon les quotas de l'INSEE. Donc ça a été adressé, ils ont répondu, c'est une mécanique relativement simple, ce chatbot Messenger avec une société qui s'appelle Jam. C'est la deuxième fois en fait, on a un référentiel puisqu'en 2018 on a déjà fait le même type d'enquête, on avait globalement les mêmes questionnements, sauf qu'on a rajouté une dimension qui était liée évidemment au confinement cette année et il y a des enseignements.
Alors est-ce que ça a changé quelque chose le confinement justement ?
Il y a eu des éléments. Alors, loin de moi l'idée d'aller juger ces jeunes, mais je propose de vous donner quelques éléments clés si vous voulez.
Oui, allez-y.
Oui.
Donc, un jeune sur deux consomme de l'alcool toutes les semaines. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ça, c'est hors confinement, c'est tout au long de l'année. Donc, en temps normal, il y avait 51% des jeunes qui consommaient de l'alcool au moins une fois par semaine. Là, on a pris 10 points depuis 2018 de plus. Près d'un jeune sur trois fume du cannabis. Il y a 32% des jeunes qui ont consommé du cannabis au moins une fois dans l'année, contre 33% en 2018.
Ouais.
Et dans le détail, il y en a 5% qui en fument plusieurs fois dans la semaine et 4% qui en fument, 10% qui en fument tous les jours.
On va repréciser quand même que le mélange cannabis plus alcool au volant, c'est juste une catastrophe.
C'est exponentiel, c'est effectivement. Plus d'un jeune. Alors là, la vraie surprise, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un jeune sur quatre qui a déjà essayé des drogues dures. On entend par drogue dure. Type cocaïne, ecstasy, MDMA. Donc là, c'est quelque chose qui nous a vraiment choqué, c'est-à-dire qu'il y a 14% qui ont essayé au moins 4 fois. Donc véritable surprise, disais-je, parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ça. Donc,
et surtout, il y a une progression qui est assez phénoménale depuis 2018, c'est ça ?
Tout à fait, oui, oui. Là, on a pris 10 points. Donc, voilà, on n'a pas d'explication rationnelle.
C'est peut-être lié à la conjoncture. On est dans une période qui est quand même assez triste.
C'est plutôt morose.
Ouais, oui. Ils essayent de s'évader autrement, on va dire ça comme ça.
Peut-être une manière de compenser, effectivement. Alors, il y a des petits points positifs, c'est-à-dire qu'ils déclarent quand même globalement qu'ils s'organisent. C'est-à-dire que l'idée du conducteur désigné, c'est quelque chose qu'ils appliquent. Le principe du SAM, il y en a 30% qui l'appliquent. Il y en a 46% qui dorment sur place. Voilà, mais après, verre à moitié plein ou à moitié vide, il y a aussi ceux qui déclarent, par exemple, ça c'était intéressant quand on a posé la question, est-ce que vous êtes toujours en capacité de dire non lorsque vous apercevez que le conducteur visiblement est éméché et qu'il se propose de vous ramener? Donc il y en a 77% qui vont vous dire, non, moi j'ai toujours réussi à dire non. Et de l'autre côté, il y en a donc 23% qui ne peuvent pas dire non. Ça, c'est parfois la force du groupe ou de la tribu, parce que vous êtes loin de vos bases ou de votre maison et vous n'osez pas. Moi, je suis bien placé parce que je suis papa aussi. Je le dis souvent quand on fait des interventions auprès de jeunes, notamment dans des CFA, des lycées ou autres. Moi, j'ai toujours dit, mais le discours que j'ai toujours tenu, c'est que n'ayez pas peur de gêner votre père. Ça va peut-être pas m'amuser, mais s'il est 4h, 5h du matin, si vous êtes à l'autre bout, à 50 km de votre domicile, je viendrai, je ferai l'effort de venir. C'est pas un effort, il n'y a pas d'autre solution à mon sens.
Voilà. Bon, vous avez posé la question aussi, est-ce que les soirées de déconfinement, ça changeait quelque chose dans leurs habitudes de consommation? Là, c'est pas brillant non plus. Hein.
Non, ils nous ont dit, alors là, sur les soirées, même y compris soirées clandestines, mais la plupart, la très grande partie des soirées ont lieu au domicile privé des jeunes, à 90%, c'est ce qu'ils nous ont dit. 6% des jeunes ont participé à ce qu'on appelle des soirées clandestines, là on parle de soirées à l'extérieur. Lors de ces soirées, la crainte est avant tout, ils disaient, à 52% c'était la police, suivi de celle du virus à 15%.
Oui, à seulement 15%.
Tout à fait. Et pour la gestion de leurs soirées, ces mêmes jeunes, 31% ont dormi sur place, 22% sont rentrés à pied et 30% sont tout de même rentrés en voiture. Donc on s'attend aussi, parce qu'on a posé la question pour les fêtes, 42% des jeunes comptent se lâcher lors d'une soirée déconfinement en petit comité, 20% comptent faire, ils nous ont dit, leur français, une grosse teuf sans limite, 20% comptent être responsables en petit comité ou avec beaucoup de monde. Et enfin, 15% n'envisagent pas de fête spéciale. Donc voilà. Mais bon, c'est globalement les garçons qui comptaient se lâcher un peu plus. On peut peut-être rappeler, c'est d'ailleurs dramatique, ces chiffres malheureusement ne changent pas. Sur 10 morts, je dis souvent sur cette catégorie d'âge, les 18-24, sur 10 morts, disais-je, il y a 8 garçons et il y a 2 filles. Donc c'est une problématique, j'ai envie de dire, exclusivement pratiquement masculine.
Pierre, merci pour tous ces chiffres qui donnent un peu le tournis. Hein. Oui. Alors essayons d'être optimistes et se dire
juste
que...
Si je peux me permettre, très rapidement, on a une application qui s'appelle Alcotel, qui est totalement gratuite, qui permet à l'occasion de fêtes, ou en dehors des fêtes même, de permettre à un conducteur de savoir s'il peut ou pas reprendre son véhicule en toute sécurité.
Alcotel, vous dites.
Alcotel, c'est son nom.
Merci Pierre.
Merci Pierre.
Merci beaucoup. Responsable prévention, MAF. Jean-Luc, ce rendez-vous auto est terminé. On sera là la semaine prochaine, la semaine d'après pour la dernière de ce week-end des experts, puisque je vous rappelle que ce rendez-vous tire le rideau les 2 et 3 janvier prochains. Et on sera là donc encore pendant 2 semaines. À noter que vous pouvez suivre Jean-Luc sur la page Facebook, sur sa page Facebook. Il vient enfin de créer une page Facebook, ça fait plaisir quand même. Les nouvelles technologies SO 2000 arrivent donc chez Jean-Luc Moreau. Moi, vous pouvez me suivre sur F-Sorel. Et puis, pour tous ceux qui se posent la question, ce que je vais devenir, eh bien, moi, je vais sur BFM Business, qui est, vous savez, une radio qui fait partie du groupe Altice, hein, de Next Radio. Il y a BFM TV, RMC, BFM Business, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les soirs de 20h à 22h pour une émission qui s'appelle Tech & Co et qui est dédiée donc à l'actualité de la tech. Ça tombe bien, c'est l'une de mes passions. Donc vous voyez, tout se termine pas si mal que ça. Dans un instant sur RMC, les paris avec Jean-Christophe Drouet. Salut Jean-Christophe.
Salut à tous, salut François, je vous souhaite de belles fêtes.
On va commencer à acheter des victuailles.
Exactement, vous allez me manquer à partir de début janvier. Et je vous souhaite une belle route à tous les deux.
On se fera des petits coucous dans les couloirs.
Avec grand plaisir. Et puis j'espère toujours que vous allez écouter les paris RMC pour faire gagner de l'argent. Je sais Jean-Luc, ça l'intéresse l'argent. On se retrouve dans quelques instants, notamment autour de la rencontre Lille-Paris-Saint-Germain. C'est la 16e journée de Ligue 1 et c'est le choc de notre championnat. Et on va tenter évidemment de vous conseiller au mieux.
Bon dimanche avec RMC et on sera là la semaine prochaine. Et bonne fête d'ici là, hein, bien sûr. À très vite.
Les paris RMC, 10h-11h.